Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
En ce début octobre, je vous propose une balade automnale dans les tunnels de l'aqueduc à Cernac. Ben oui, pour Antiquissimo, mais pour vous aussi, c'est encore le temps des belles sorties en campagne gardoise. On a beaucoup de chance dans notre région de pouvoir faire des marches sur des terres qui ont été depuis toujours inspirées et travaillées. Et c'est encore plus le cas ici à Cernac, sur une terre où les Gaulois ont été... Alors, il y a eu des occupations préhistoriques, mais je ne vais pas remonter à ce point dans le temps. Donc, des terres occupées par les Gaulois, puisqu'il y avait des carrières déjà du temps des Gaulois, des carrières de pierre, puis évidemment les Romains. Et donc nous sommes à Cernac, en train de suivre un guide passionnant que je ne vais pas tarder à vous présenter, à 20 km environ de Nîmes, dans un très vaste vallon. Alors c'est donc, je l'ai dit, une carrière de pierre avec de la molasse calcaire, dans laquelle les Romains ont choisi, après avoir extrait la pierre comme on l'a dit, de faire passer le fameux aqueduc, le fameux, ce qu'on appelle nous ici le pont du Gard. Mais en fait, le pont du Gard, c'est qu'un tout petit morceau finalement, certes le plus prestigieux, le plus beau, le plus connu aussi et le plus ouvert, puisque là, il enjambe le Gardon. Eh bien, ce n'est qu'un tout petit morceau, ce pont du Gard, qui n'est pas un pont, comme vous le savez. Et partout dans la région, affleurent des autres bouts de ce qu'on appelle un aqueduc, c'est-à-dire un édifice, un appareil qui sert à doucere, transporter à quoi l'eau. Alors, c'est Roland Jonquet qui va mener cette visite. Roland Jonquet, il anime une association dont je vais parler. Et nous suivons un petit groupe de l'association Carpe Fuch qui lui a demandé d'organiser cette petite visite de manière à explorer ce qu'on appelle des tunnels. Alors, des tunnels à couvert qui acheminaient l'eau depuis cette fameuse fontaine d'Eure, c'est-à-dire la ville d'Uzès aujourd'hui, jusqu'à Nîmes, d'une manière très très savante. Beaucoup de gens l'ont dit et redit. Alors Roland Jonquet, préside une autre association, l'association du Vallon d'Escaune à Cantarelle. Et cette association, elle a de multiples objectifs et elle veut, après un débroussaillage énorme du site, se réapproprier l'endroit, l'entretenir, l'ouvrir à tous les publics et peut-être aussi leur permettre, eux aussi, ces publics, de revendiquer, de planter à nouveau des oliviers. Quant à nous, on se régale en parcourant les deux galeries qui restent ici, celle de Pérotte qui est longue de 74 mètres, celle de Cantarelle qui mesure 60 mètres, pour comprendre, pour voir avec quelle ingéniosité ces grands ingénieurs hydrauliques que sont les Romains, ces ingénieurs hors pair, réussirent à corriger leurs erreurs dans leur manière de travailler avec de multiples métiers qui sont envisagés autour de ce parcours de l'eau, parcours domestication de l'eau que les Romains ont acquise auprès de leurs prédécesseurs, les Étrusques. Et donc nous, on va essayer de suivre ce parcours, de voir comment ils ont réussi à corriger leurs erreurs, comment ils ont réussi à avancer avec méthode et efficacité. Alors vous aussi, n'hésitez pas à contacter Roland Jonquet, c'est très simple. Son mail, c'est Roland, le prénom, tout en minuscule, point, Jonquet, J-O-N-Q-U-E-T, @gmail.com. Si vous le contactez par mail, il pourra à vous aussi organiser cette visite pour connaître une histoire d'homme, une histoire de technique, une histoire de nature. Car en effet, Roland Jonquet, à la tête de cette association, entend préserver, aménager, faire connaître à la fois le patrimoine historique et le patrimoine écologique de cet endroit. Mais écoutons-le, je vais vous le présenter rapidement. Alors, Carpe Fuch dans la Garrigue, sur le site du pont du Gard, avec notre guide du jour qui va expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette installation, de cette organisation d'un circuit autour des restes des tunnels du pont du Gard. Donc là, je vais vous demander de vous présenter. Donc, vous êtes...
Donc, Roland Jonquet, je suis le président de l'association Le Vallon d'Escaunes à Cantarelle. Donc, l'association porte tout à fait le nom du site.
Voilà, nous avons... Elle est vieille de combien de temps, cette association ?
Elle date de 2009, mais auparavant, on avait travaillé beaucoup aussi sur une villa gallo-romaine. On s'est vraiment investi sur le Vallon à partir de 2009.
Voilà. Mais vous, vous êtes bénévole ou bien vous êtes archéologue
? Non, on y est archéologue, bénévole. Donc voilà, on a la chance sur Cernac d'avoir ce site à la suite du pont du Gard, avec des visiteurs qui cherchent à passer dans les galeries creusées par les Romains et à comprendre le circuit de l'eau à la suite du pont du Gard. Et donc, il y a quelques années en arrière, le site était encore très fermé, embroussaillé. Et donc j'ai dit en rigolant que même les Romains, s'ils étaient revenus, ils n'auraient pas retrouvé leur galerie. Donc,
oui, tout était envahi par la végétation, en fait.
Voilà. Voilà, donc on a réouvert ce circuit de l'eau, on l'appelle au fil de l'eau, mais parallèlement, on a également aménagé les terrasses au-dessus, parce qu'on a un site magnifique avec des terrasses méditerranéennes, des murs de pierre sèche. Ces terrasses étaient aussi envahies par la friche, mais elles sont toujours plantées d'oliviers. On a retrouvé les oliviers, on les a taillés, fait revivre, etc. Et ces terrasses sont entretenues par une trentaine de familles de tout le département.
Donc qui ont parrainé un olivier.
Ils adoptent, on dira, c'est le terme qu'on emploie nous, ils adoptent une terrasse. Et une terrasse, ça peut être 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 10, 15, 20, 30 oliviers, ça dépend de la taille de la terrasse. Voilà. Donc l'adoptant s'engage à tailler les oliviers, à la tenir propre.
Bon, il adopte pour toute sa vie ou c'est non ?
Bon, disons que c'est 3 ans reconductible par tacite reconduction, mais pour nous, on considère qu'il faut que ce soit un plaisir, c'est-à-dire que si l'adoptant se lasse, pour telle ou telle raison, il n'y a pas de souci, il reprend sa liberté. Quoi.
Oui. Et donc ces gens-là, comme ça, ils maintiennent le site, ils le rendent à la fois domestiqué, entre guillemets, et puis permettent aux visiteurs d'y accéder plus facilement.
Oui.
Le site est ouvert tout le temps. Hein.
Oui, le site est ouvert au public. Nous, dans nos aménagements, on a essayé de garder son côté naturel, un peu authentique, rustique, je dirais aussi. Les gens qui viennent là, le site est apaisant.
Oui,
et
c'est vrai.
On observe ça de la part de tous les visiteurs qui sont heureux de venir là. Et donc, actuellement...
C'est sur la commune de Cernac ?
On est sur la commune de Cernac et donc actuellement, le site qui était connu uniquement pour ses galeries, on va en faire quand même quelque chose de où on met la biodiversité en avant, la qualité globale du site. Quoi. Et donc on a maintenant trois parcours, le fil de l'eau qui on repasse dans les galeries romaines, le fil des hommes, on peut gravir jusqu'au rocher qui domine le vallon, qui est le rocher de la Pérotte. Et puis au fil du temps, qui est le dernier parcours qu'on vient de mettre, enfin qui est en cours de finition, c'est un parcours sonore au cours duquel les visiteurs, après avoir chargé un QR code et gardé leur téléphone en marche, eh bien, pourront faire le parcours et c'est le rocher de la Pérotte, notre rocher emblématique, qui va raconter l'histoire du vallon, notamment autour des trois capitelles que nous avons reconstruites.
Donc il y a de multiples intérêts, alors multiples longueurs, multiples difficultés peut-être à ces trois circuits, et
oui,
puis il y a des intérêts différents.
Oui, il y a des intérêts différents au fil du temps. Le but, c'est quand même de sensibiliser les gens au réchauffement climatique, puisque Pérotte à travers son histoire, il dit les soucis qu'il a actuellement par le manque d'eau, etc. Donc on essaie de... Ça finit en disant, soyez raisonnables avec notre planète, quoi. Voilà, on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice par rapport à ce sujet très, 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 très sensible et important du réchauffement. Voilà.
Et donc, les parcours nécessitent à peu près combien de temps, les uns et les autres? Et après, on parlera plus précisément de notre aqueduc.
Oui, ben, on compte une heure en général par parcours. Celui qui va au sommet du rocher La Pérotte est peut-être le plus difficile. Il faut être bien chaussé et être prudent, surtout si on est avec des enfants. Parce que il y en a des passages un peu vertigineux, voilà, faut de la prudence. Sinon, tous les deux autres sont parfaitement accessibles, dans le fil de l'eau.
Et alors, nous, avec l'association Carpe Feuche, nous venons de faire le circuit dans ces galeries, on les appelle des tunnels plutôt, je crois.
Oui, les gens disent les tunnels de Cernac.
Et alors dans ces tunnels, on est amené à voir comment ce qu'on appelle le pont du Gard, on sait très bien qu'il est très mal appelé, mais on ne va pas changer les choses maintenant, ce pont du Gard n'est qu'un morceau d'un énorme tronçon.
Oui, puisque ça part du Zest, de la Fontaine de l'Eure, jusqu'à Nîmes. Et donc, le pont du Gard, en fait, il permet à l'aqueduc d'enjamber le Gardon. Il fallait, une fois passé les garrigues, il fallait enjamber le Gardon. Ça reste un ouvrage majestueux.
Et alors là, vous êtes natif de cet endroit? Vous l'avez toujours connu?
Oui, je suis natif de Cernac.
Et donc, j'imagine que tous les gens de Cernac sont attachés à ce site?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ils ont tous des histoires particulières à eux. Pendant la guerre, on s'y cachait, parce qu'il y avait des bombardements. Enfin, tous les Cernacois sont attachés à ce site, quoi.
Et à l'école, j'imagine qu'on amène les enfants.
Oui, alors dans le cadre du projet là en cours, nous allons faire une plantation. D'arbres fruitiers, des fruits plutôt anciens et résistants à la sécheresse. Et nous allons faire cette plantation avec les enfants de l'école maternelle. Voilà, nous allons faire ça courant fin octobre, début novembre.
D'accord, donc tout le monde est mobilisé là-dessus et donc vous arrivez à sensibiliser tous les gens alentour, mais pas que, à venir réfléchir à comment s'est construit cet aqueduc, parce que là on en a des traces de la construction.
Oui, on a des traces de la construction, mais tout particulièrement les techniques de creusement, puisque les Roumains ont creusé des galeries dans d'autres pays, en Italie ou ailleurs. Mais oui, là, c'est, on a des traces que les archéologues dans les années 80 ont vraiment étudié, quoi, hein, ce qui permet de voir comment il s'y prenait. Bon, c'est du creusement qu'on appelle à l'aveugle. Et donc ce sont toutes les erreurs de parcours qu'on peut voir par rapport au coup des scouds, hein, c'est les pics qu'utilisaient les Romains, par rapport au coup des scouds, on voit toutes les erreurs qui ont pu être faites, et ce sont ces erreurs qui ont aidé les chercheurs en fait à comprendre comment ils s'y étaient pris.
Et donc en gros, si on schématise, deux équipes qui fonctionnent pas dans le même sens et qui vont se rencontrer.
Oui, c'est le creusement à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui descend par une cheminée, une autre soit de l'entrée, soit d'une autre cheminée, et ils doivent se rencontrer. Pour cela, ils doivent avoir la même hauteur, avoir la même direction. Voilà. Et donc la galerie de Pérotte, il y a beaucoup d'erreurs de parcours qui permettent justement de bien comprendre les difficultés qu'ils ont eues et pourquoi. Le creusement des deux galeries, c'est celle-là, ça a duré 2 mois, comme la galerie de Pintaret, on passera tout à l'heure. avec 9 équipes. Donc, comment tout ça, on le sait, c'est les archéologues du CNRS. Dans les années 80, on travaillait sur tout l'aqueduc du Gers, mais on a travaillé ici aussi. Il y en a un archéologue qui a travaillé sur la pierre, il a retiré des outils, essayer pour chiffrer le temps. Donc, ils en ont conclu 9 équipes, dont ça devait travailler jour et nuit, qui sont relayées, et ça a duré 2 mois. Alors, ce sont toutes les erreurs de parcours, parce que là, il y a beaucoup d'erreurs de parcours, qui permettent de comprendre comment les Romains s'y sont pris. Donc d'abord, on peut dire que c'est du creusement à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il y en a qui rentrent par là, d'autres qui descendent par la cheminée, et ils doivent se rejoindre. Voilà. Et donc ici, sur celle-là, on a 3 cheminées. Et sur la galerie de Cantarelle, qui est à peu près la même longueur, il n'y a que 2 cheminées. On verra que la galerie de Cantarelle a été beaucoup mieux conduit que celle-là. Est-ce qu'il y a une expérience de celle-là? Est-ce que c'était des camions que d'abord celle-là et l'autre? Est-ce qu'ils les ont fait en même temps? Tout ça, on ne sait pas. Donc, si on regarde là, on voit...
Non, ne bougez pas.
Là, on voit donc ceux qui arrivent de là-bas, donc, ils sont trop hauts, ils s'en rendent compte, ils descendent au fur et à mesure. Et ici, ils commencent à aller trop à droite par rapport à ceux qui arrivent ici. Donc, ils vont rectifier. Mais là, si vous regardez, on voit que c'est droit ici. En fait, pour ne pas échafauder, là, c'est pas très haut. Mais on verra si c'est toujours dans la galerie de Cantarelle. Mais de toute façon, ils se travaillaient deux. Qui faisait d'abord le haut à genoux, et de chaque côté bien sûr, et deux qui suivaient peut-être 3-4 mètres derrière, qui faisaient le bas après. L'erreur elle est corrigée, donc ceux qui suivent à 3 ou 4 mètres derrière qui font le bas, évidemment ils ne vont pas refaire l'erreur puisqu'elle a été corrigée.
Voilà.
Alors bon, c'est très par là, on verra, parce que c'est les coups de pic, on les voit très bien. Hein.
Oui.
Et par endroit, alors on voit les coups de pic de là-bas et les coups de pic d'ici, comment ils se sont rejoints. Ça, je vous en montrerai. Et là, donc, vous voyez, c'est le niveau entre ceux qui ont fait le haut, alors là, ils devaient vraiment ramper, hein, et ceux qui ont fait le bas. On voit très bien que ceux qui arrivaient de l'extérieur, qui se travaillaient plus haut que ceux qui arrivaient de la cheminée. Vous voyez, il y a quand même des gros écarts, hein, 70 cm. Et puis alors là où c'est super, c'est ça, de voir là, ceux qui arrivaient là, leurs coudes et scoudes sont comme ça, et ceux qui arrivent là, leurs coudes et scoudes sont comme ça. Et là, voilà vraiment...
On voit la jonction.
À plusieurs endroits, mais là, c'est l'endroit le plus visible.
Dans ce va-et-vient entre le passé et le présent, et la construction peut-être d'un futur où tout serait harmonieux sur ce site de Perrotte et Cantarelle, une petite pause musicale avec une artiste qui aujourd'hui vit à Barcelone, elle s'appelle Nola. C'est une femme qui compose de la musique électronique depuis très longtemps, puisque sa passion pour la musique a commencé, nous dit-on, dès l'âge de 7 ans. Et la voici en tant que chanteuse dans un groupe et instrumentiste aussi. Et c'est lors d'un concert qui fut donné en 2017, en décembre 2017, justement sur le site du Pont d'Igard. On l'écoute.
Thank you.
Après cette pause musicale assez grandiose hein, sur ce site du Pont du Gard, où vous le savez, chaque été justement des spectacles, notamment musicaux, sont organisés et auxquels vous êtes conviés parce que la presse en parle à chaque fois énormément. Donc, après cette pause musicale, retour à l'ombre des galeries de Cernac avec notre guide du jour Roland Jonquet, qui va nous donner quelques petits détails techniques maintenant, détails émouvants. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Comment, à partir de quelques entailles sur la roche, on découvre où les lampes à huile, ben oui, il fallait quand même y voir clair, étaient posées. Puis ensuite, Roland nous parlera des problèmes d'étanchéité. Ben, vous voyez que nous sommes en plein dans la technique. Et il sera temps de conclure avec lui sur la vocation de son association que nous espérons vraiment devoir durer très très longtemps. Nous allons le saluer ensuite et nous nous donnerons rendez-vous pour une prochaine émission. Je vous dis déjà au revoir. Et la lampe à huile tenait dans cette petite alvéole.
Oui, 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 ça devait tenir parce que c'est...
Il y en a beaucoup, hein.
Et alors, plus on s'éloigne des cheminées, plus il y en a.
Mais c'est pas la construction qui fait ça. C'est pour entretenir l'aqueduc.
Quoi donc ?
C'est pour entretenir l'aqueduc qui fait ça.
Non, c'est pendant la construction.
C'est la construction ?
Ah oui, mais c'est pour le creusement. Hein.
Ah bon ?
Ah oui, pendant, pour le creusement, ouais, il fallait qu'il s'y voit. Hein.
Et on voit ça au niveau de l'eau.
Et donc, il semblerait que quand la lampe à huile était terminée, fait usée, fait que l'huile, il n'y avait plus d'huile, c'était le temps de travail aussi.
Ah oui. Ah oui, c'est vrai, ça correspondait à...
Ça correspondait ouais, voilà, au travail. Temps de travail.
Et c'était une heure de travail.
Ça, ce n'est pas l'étanchéité. Ça, c'est le premier dépôt. Parce qu'en fait, l'aqueduc, il a dû marcher certainement une trentaine d'années. Bon, on le date autour de 30-40 de notre ère. Et il a dû marcher peut-être 30 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais ils l'ont arrêté parce qu'il y avait ça perdait à plusieurs endroits, etc. Donc, il a été arrêté pendant quelques années pour reprendre. Et ça, ce serait le premier dépôt. Donc l'étanchéité ils savaient faire, mais bon, il y avait quand même pas mal de problèmes. Alors après, on a ici là, on est sur le dépôt calcaire, et ça là, ici, cette partie là, c'est en fait certains d'entre vous ont dû passer en haut du Pont du Gard. Vous vous rappelez, donc quand vous passez dans le conduit, ça fait le ventre comme ça.
Oui.
C'est donc des deux côtés ici, on en avait les dépôts latéraux. Donc les Romains avaient quand même imaginé ou pensé que ça, avec les dépôts calcaires, ça allait se resserrer progressivement. Donc ils ont fait certainement plus grand
pour parer au problème.
Voilà, alors ça, les dépôts, ils ont été volés, pris comme toutes les pierres, hein, d'autant que c'est quelque chose qui se sculpte très facilement, et le rétable de l'église de Saint-Bonnet, il est fait avec ces dépôts calcaires. Hein. Parce que ça se sculpte très facilement. Voilà. Alors jusqu'où, la question tout à l'heure, c'était jusqu'où arrivait l'eau, les murs devaient arriver à peu près à cette hauteur. Quoi. L'aqueduc de Buzès à Nîmes, il était toujours fermé, pour pas que l'eau de la fontaine de l'Eure soit polluée. Il n'y a qu'ici qu'il était, il était ouvert, par le fait que certainement ils utilisaient les cheminées pour s'il y avait un encombrement de branches comme ça. Mais on a des... Bon, nous, notre association n'est pas spécialisée sur les aspects archéologiques. Nous avons une vision plus globale du site, ouvrir le site au public, en le respectant, etc. Mais on travaille aussi parfois avec des associations qui sont beaucoup plus branchées archéologie, telles celle qui nous a aidé à rédiger nos différents textes sur le parcours de l'eau.
Alors, elle s'appelle comment cette association ?
Et c'est Claude Larnac qui a été longtemps président, et c'est Patrimoine et Pont du Gard, je crois.
Donc ils continuent d'œuvrer avec vous pour rechercher. On trouve encore des choses, ou alors on peut estimer qu'on a fait le tour de toutes ces excavations?
On trouverait certainement des choses, mais il faudrait qu'il y ait un nouveau programme archéologique. Ce qui n'est pas prévu.
Et vous expliquiez tout à l'heure que vous aviez dû vous battre pour que le site reste ouvert, parce que la DRAC aurait préféré, peut-être pour travailler plus tranquillement, le fermer.
Oui, la position de la DRAC, c'est de dire qu'il faut le laisser pour les générations futures. Nous, ce n'était pas notre vision.
Surtout que j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, que en fait, les gens sont assez soucieux du site et ne l'abîment pas aussi.
Le site est bien respecté. Ce côté, un peu intimiste qu'il a, un peu particulier, on s'y sent bien dedans. Et c'est vrai que ça nous arrive de ramasser quelques papiers, mais c'est très très rare. Le site est bien respecté.
Alors, je peux dire, moi qui suis venue tout à fait sans connaissance du site, qu'il est très bien balisé, on ne peut pas se perdre, il y a un fléchage qui est bien fait.
Pour l'instant, le fléchage sera, je dirais qu'il sera bien fait dans un mois ou deux. Voilà, on va l'améliorer. On a vu notre premier aménagement date de 2020. On a pu parler avec tous les gens qui le fréquentent, pas avec tous, mais avec beaucoup de gens qui le fréquentent. Et on a vu les points faibles de notre signalétique et on va l'améliorer. Et là, on peut dire qu'à partir du mois de novembre, les gens pourront se promener sans chercher, quoi.
Voilà. Alors, si on fait le compte, il y a combien de cheminées sur ce site, combien de galeries, ça s'évalue comment?
On a les deux galeries uniquement, la galerie de Perrotte et la galerie de Cantarelle. La galerie de Perrotte étant creusée à partir de 3 cheminées, et la galerie de Cantarelle creusée à partir de 2 cheminées.
Et elles ont été trouvées parce que les gens savaient que c'était là et elles ont débroussaillé. Il y a eu un énorme travail, comme on l'a déjà dit. On savait que c'était là.
Oui, on y accédait. Bon, une partie des galeries était en partie bouchée déjà. Et par le ruissellement de l'eau, et la terre qui rentrait. Et donc ce sont des militaires dans les années 70 qui venaient une fois par semaine et qui ont enlevé toute la terre de façon à pouvoir retraverser les galeries.
Et donc il a fallu, donc l'armée, c'était déjà pas rien. Puis ensuite, combien vous diriez de personnes dans l'association sont actives pour soit préserver, soit organiser?
Bon, nous on a une douzaine de membres au conseil d'administration, mais lorsqu'on fait des événements, on a facilement des bénévoles qui viennent nous aider. Donc on a 150 adhérents. Donc,
oui, c'est une grosse association, voilà, quand même. Oui, ça fonctionne.
C'est important parce que on fait les aménagements qu'on fait, on passe par un cadre européen, ce qu'on appelle les fonds leaders. Et donc, c'est sûr qu'il faut quand même être une association représentative pour pouvoir passer par ce type de financement.
Et oui, parce que voilà, il faut trouver les financements, ça ne doit pas être forcément évident.
Bon, on a un PETR d'Arrigo Cossière qui est situé à Nîmes, qui nous aide dans le montage des dossiers. Le département connaît bien notre site, dont on l'a sollicité à plusieurs reprises pour des reconstructions de capitaines ou autres. Disons que maintenant on est connu et voilà. Donc pour ce dossier en cours, là, on n'a pas eu de difficultés particulières parce que le site est maintenant connu, on sait ce qu'on y fait dedans, et voilà.
Donc en fait, vous arrivez à cumuler beaucoup d'activités qui convergent vers ce site.
Oui, voilà, on essaie, c'est pour ça que je vous disais, on n'a pas une approche scientifique, archéologique, on a une approche d'animation, de faire vivre le site. Mais le faire vivre par l'implication, hein, quand des familles adoptent des terrasses, reconstruisent un peu les murets dessus, taillent les oliviers, voilà. C'est pour ça que notre, nous disons souvent, un vallon, 1000 murets, parce qu'il y en a beaucoup, 1000 murets, 1000 solidarités. Voilà notre devise, si on peut dire.
Et on vous remercie beaucoup pour cette visite passionnante et tout ce qui est fait autour de ce magnifique site. Merci
beaucoup.
C'est
moi qui vous remercie de parler du site et de le faire connaître.